France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19. Comment aider les Français à vieillir chez eux le plus longtemps possible? La plupart des personnes âgées n'ont pas envie d'aller en maison de retraite. Quand elles le font, c'est souvent qu'elles n'ont pas le choix, car leur logement et plus globalement leur environnement n'est plus adapté à leurs besoins. Et pourtant, il existe des solutions. Trouver des solutions, c'est la mission qui vous a été confiée par le gouvernement. Luc Broussy, bonjour.
Bonjour.
Et je vous remercie de venir ce matin à France Inter. Avant d'aller au ministère des Solidarités pour remettre vos conclusions, vous êtes le président de France Silver Eco. C'est une association qui regroupe toutes les entreprises du secteur de l'économie de la vieillesse. Vous avez déjà fait un rapport sur ce sujet en 2013. Vous faites là une nouvelle série de propositions. Il y en a 77 pour alimenter la future loi sur le grand âge. Il y a quoi de nouveau par rapport à il y a 8 ans ?
Je crois que ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience. J'ai presque l'impression que quand je, en 2013, ce rapport date de 2013, le premier, qu'on m'a demandé de réactualiser, en 2013, je parlais encore un peu chinois à certains interlocuteurs. Ce qui m'a frappé 8 ans après maintenant, c'est que quand on va voir des élus locaux, quand on va voir des bailleurs sociaux, quand on va voir des acteurs, des entreprises, la question du vieillissement démographique, la question de la transition démographique, est maintenant vraiment dans tous les esprits. Ça, c'était assez frappant, effectivement, et c'est là, probablement, la plus grande différence, une différence positive, puisque du coup, on peut vraiment maintenant avancer tous ensemble.
Parce qu'avant, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il y a il y avait une approche uniquement médico-sociale, et maintenant, elle est beaucoup, beaucoup plus vaste.
Moi, je pense qu'il faut avoir vraiment cette approche holistique de la question du vieillissement. 15 millions de seniors en France, 1 million et demi de personnes âgées dépendantes. Donc, la dépendance ne résume pas la question de l'avancée en âge dans notre pays. Et j'ai voulu, moi, parler presque de tous les autres, j'allais dire, des 14 autres millions qui sont retraités, qui sont âgés, qui n'ont aucune envie d'aller en maison de retraite. Ça tombe bien, parce que ces personnes-là n'en ont pas besoin. Mais on va commencer, ici ou là, à ressentir telle ou telle fragilité, chez soi, dans la rue. Et voilà. Et donc, c'est ces millions de personnes-là qui ne se sentent pas vieux, qui veulent continuer à avoir une vie sociale, continuer à vivre dans la vie. Et c'est cette adaptation de la société que je prône dans ce rapport.
Adaptation de la société, mais d'abord et avant toute chose, pour pouvoir rester chez soi, il faut un logement adapté. Ça veut dire quoi, un logement adapté ?
Ça veut dire un logement où on est en capacité de bien vieillir. Ça veut dire que c'est un logement accessible, évidemment. On change une baignoire en douche. Bon. C'est un logement de plus en plus qui sera numérique, parce que de plus en plus de commandes à distance facilitent la vie à domicile et rendent autonome. Mais c'est aussi, surtout, un logement qui va permettre la vie sociale. C'est un logement qui est près des commerces, près des services publics. Si vieillir chez soi, ça veut dire rester dans le pavillon dans lequel on a élevé ses enfants, qui ne sont plus là, on a vécu avec son mari qui est mort, et qu'on se retrouve seul, femme âgée de 80 ans, avec un escalier pour descendre à la cave, un autre pour monter à la chambre, et un jardin avec du gazon, c'est juste pas l'idéal. Et donc, je pense que la prise de conscience de cette génération qui arrive, quelle est cette génération qui arrive ? C'est la génération qui aura 85 ans en 2030. Mais la caractéristique de cette génération, c'est qu'elle avait 20 ans en mai 68. Mmh. Et cette génération-là, elle a, au cours des 40 dernières années, transformé la société. À partir de maintenant, elle va transformer la vieillesse.
Transformer la vieillesse, et donc il faut maintenant transformer les villes, c'est ce que vous nous dites. Hein, voilà, il faut adapter aussi l'urbanisme et faire en sorte que les villes deviennent bienveillantes. C'est quoi une ville bienveillante ?
C'est une ville où, quand vous êtes une personne âgée et que vous avez un logement adapté, on vient d'en parler, si tout le reste est un milieu hostile, eh bien c'est une forme d'assignation à résidence. Donc quand vous sortez, vous avez besoin d'une voirie adaptée pour ne pas chuter. 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans chaque année dans notre pays meurent de chute.
Dehors ou chez elles ?
Alors, chez elles ou juste dans l'entourage. Ouais. Mais 10 000, c'est un chiffre qui est 3 fois supérieur au nombre d'accidents de la route, d'accidents de la route mortels. C'est un chiffre qui n'est connu de personne. C'est un scandale de santé publique qui est, d'une certaine manière, ignoré et tu. Et c'est le même chiffre depuis 20 ans. Il n'a jamais diminué. Donc, oui, Une ville bienveillante, c'est une ville qui va s'attaquer à la voirie, c'est une ville qui va s'attaquer aux bancs publics, c'est une ville qui va faire en sorte...
Mais quand vous dites s'attaquer aux bancs publics, ça veut dire qu'il en faut plus?
Mais oui, il en faut plus parce que, à un moment donné, vous avez chez des personnes âgées des débuts de fragilité. Vous voulez aller chez vous à la boulangerie, il y a 400 mètres. Au début, ça va être un peu difficile. Et puis s'il y avait, et tous les maires le savent, des bancs publics qui permettent de couper l'effort, voilà. Parce que s'il n'y a pas ça, si la ville n'aide pas les gens à rester autonomes, eh bien, ils vont rester chez eux, ils vont s'isoler. Et comme le chantait Brel, on va ensuite finir du lit au lit.
Et vous, vous écrivez aussi dans votre rapport qu'il faut des toilettes publiques. Et ça, on l'a vu notamment pendant le confinement avec la fermeture des bars et des restos. Dans certaines villes, les personnes âgées ne pouvaient plus aller aux toilettes en se promenant dans la rue parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques et on ne peut plus aller dans les bars.
Eh bien écoutez, moi je suis très content que vous, spontanément, vous me posiez la question parce que... Faire de la question des toilettes publiques pour les personnes âgées un débat politique, le chemin en 8 ans, il est là. Il est là, c'est-à-dire que vous m'interrogez sur cette question-là. Oui, il y a de plus en plus de personnes totalement valides qui vivent leur vie de senior sans aucun problème, mais qui deviennent incontinents. Eh bien, la question des toilettes publiques, moi, je commence à en faire une affaire politique, parce que dans l'organisation de la ville, les bancs publics, les toilettes publiques, la synchronisation des feux rouges, voilà toute une série d'éléments qui doivent évoluer si on veut rendre, une fois de plus, la ville accueillante pour les seniors.
Alors, des mesures comme ça, il y en a vraiment beaucoup dans votre rapport. J'en choisis une autre. Là, on s'éloigne de la ville, hein, mais vous dites qu'il faut former et recruter davantage d'ergothérapeutes. Combien ? Il n'y en a pas beaucoup en France ? Il n'y en a pas assez ?
Il y en a 13 000, il n'y en a pas assez. Mais surtout, il n'y en a pas assez par rapport à d'autres pays qui ont une culture de santé publique. Qu'est-ce que c'est qu'un ergothérapeute ? C'est quelqu'un qui va vous dire, dans votre logement, les aménagements qu'il faut faire pour que demain, en fonction des handicaps qui seront les vôtres, vous pouvez vivre normalement. Eh bien, il y a 5 fois plus, c'est pas étonnant une fois plus, 5 fois plus d'ergothérapeutes en Suède ou au Danemark qu'en France, parce que ces pays ont une culture de la prévention. Nous, on a plutôt une culture de la guérison.
Et ce que vous dites aussi, c'est qu'on peut agir maintenant. Pas la peine d'attendre cette loi grand âge et autonomie, qui verra peut-être le jour, pas forcément avant la fin du quinquennat, mais il y a des choses très concrètes qu'on peut faire maintenant.
Ah, écoutez, s'il y a une loi, vous imaginez bien que c'est pas moi qui en détient les clés. S'il y a une loi, ce serait parfait, parce qu'il y aurait toute une série d'éléments.
Vous pensez qu'elle aura lieu, vous, ou pas ?
Moi, j'en sais absolument rien. Mais je souhaite qu'il y ait une loi, effectivement, qui... Voilà, parce que ça permet toujours, dans le débat politique, de cristalliser les choses. Mais effectivement, s'il n'y a pas de loi, il y a quand même plein de choses à faire. Tous les gens qui nous écoutent et qui sont locataires dans le parc social savent, par exemple, que les bailleurs sociaux détiennent une des clés de la solution. Dans le parc social, les personnes âgées vont vieillir assez brutalement dans les 10 prochaines années. Là, il y a un défi véritablement dans nos quartiers de banlieue qui sont jusqu'à maintenant plutôt jeunes, vont là aussi connaître un brutal vieillissement.
Et ce qui est intéressant aussi, mais là vraiment on a plus de temps, ça va trop vite, c'est que vous dites qu'il faut arrêter de voir le vieillissement de la population comme un problème, c'est une chance, c'est une opportunité, parce que ça va générer de l'activité économique, justement toutes ces adaptations dont on vient de parler. Et vous dites maintenant, en fait, il faut une volonté politique à vous de jouer, c'est ce que vous écrivez dans votre rapport et c'est ce que vous direz ce matin aux 3 ministres avec lesquels vous avez rendez-vous, ministre chargé de l'autonomie, du logement et des collectivités territoriales. Merci beaucoup Luc Brossy d'être venu ce matin sur France Inter.
Merci à vous.
Vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.